Bonsoir. 9 morts à Kinshasa et quelques arrestations. C'est le bilan fourni par le gouvernement congolais après les manifestations de lundi et mardi en RDC. Le ministre de la Communication et des Médias précise qu'il n'y a pas eu de morts dans d'autres provinces du pays. Ces manifestations sont en rapport avec l'expiration du deuxième et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila le 19 décembre 2016. Quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 21 décembre 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître Guillaume Mandjolo, secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens, ULDC en sigle, et communicateur de la majorité présidentielle. Maître Mandjolo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Albert Fabrice Pouella, député national, leader du parti Renaissance du Congo, réconcile et membre des plateformes dynamiques de l'opposition politique et du rassemblement. Monsieur Pouella, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Étienne Vivien Kalongi, politologue et chercheur en résolution de conflits pacifiques. En résolution pacifique des conflits, voilà, et analyste indépendant. Monsieur Kalongi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Kourziana Tamba de Boma dans la province du Congo central, janvier 2015, septembre 2016 et encore décembre 2016. Il nous faudrait combien de morts pour nous remettre en cause? Pourquoi enregistrons-nous des morts? Et même si nous semblons banaliser le bilan méthode Bateya, même un seul mort, c'est déjà trop. Que nos dirigeants cessent de minimiser les choses. La vie humaine est sacrée du temps. S'ils avaient organisé les élections, on n'en serait pas là. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous sur cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
9 morts et quelques arrestations, c'est le bilan fourni par le gouvernement de la RDC après les manifestations de lundi et mardi à Kinshasa. Lambert Mendo-Malanga précise qu'il n'y a pas eu de morts dans d'autres provinces de la RDC. On écoute le ministre de la Communication, joint au téléphone par Élisée Chikota.
Nous avons enregistré en tout et pour tout dans la ville de Kinshasa 9 morts, dont un policier tué par balle, 2 dames qui ont été victimes de balles perdues, l'une à Kisenso, l'autre à Kingabwa Wayawaya, et 6 hommes qui ont perdu la vie lors d'affrontements en étant à l'épier des établissements commerciaux et industriels, 2 à Kimbanseke, 2 à Massina Petro-Congo, un à Makala et un à Matete. À travers le pays, nous n'avons pas enregistré des pertes en vies humaines.
Monsieur le ministre, de plus en plus des habitants des plusieurs quartiers de la capitale nous appellent pour nous dire que les policiers sillonnent dans plusieurs avenues des quartiers de Kinshasa, mais ils disent que ces policiers arrêtent des jeunes à l'intérieur des parcelles et même à l'intérieur des maisons.
Il y a eu des arrestations administratives dans le chef des personnes qui se sont livrées à des tentatives de pillage, et je suis informé que la plupart ont été libérées, pour autant qu'il ne s'agissait que de tentatives. Je pense que nous avons tout intérêt à ce que le calme revienne dans la ville de Kinshasa, parce qu'il faut bien que les gens vivent.
C'était la Lambert Mende, ministre de la Communication, qui était en téléphone par Élisée Chikota. De son côté, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme annonce 19 personnes tuées par balle entre les 19 et 20 décembre 2016, 45 blessés et 113 arrestations enregistrées. José Aranaz l'a dit aujourd'hui au cours de la dernière conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Le bureau conjoint déplore également l'usage excessif de la force par les services publics dans la répression des manifestations. José Aranaz, dans cet extrait que nous propose Daniel Tambinzoni.
Nous avons documenté au moins 19 cas confirmés de morts par balle et nous sommes en train de vérifier encore des autres cas. Aussi, 45 personnes blessées et le chiffre très élevé des arrestations à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma. Nous sommes aussi très préoccupés par les restrictions des travail des professionnels des médias, qu'ils ont été arrêtés ou empêchés de faire leur travail, même aussi pour les restrictions au accès des parts et à l'information par notre équipe, soit des droits de l'homme et aussi des autres collègues de la MONUSCO. Et je voudrais finaliser pour rappeler l'obligation de TU, créer les conditions, mais surtout pour les autorités, de créer les conditions de respect des droits et des libertés fondamentales à ces périodes critiques pour la République démocratique du Congo.
C'était là, José. Aranaz, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Maître Guillaume Mandjolo. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens et communicateur de la majorité présidentielle des manifestations en RDC en rapport avec l'expiration du deuxième et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. C'était le 19 décembre 2016. On déplore des morts, des arrestations, des blessés. Comment vous analyser cette situation?
Merci madame pour l'invitation, mais il faut rappeler une chose, c'est que les autorités avaient déclaré que pendant cette période, il n'y aurait pas de manifestation, il n'y avait pas d'autorisation de manifestation pour éviter les dérapages qu'on a connus, notamment au mois de septembre. Et on a tenté de faire la même opération au mois de novembre. Idem, les autorités avaient dit que non, il fallait éviter ça parce que on a déploré des morts par le fait qu'il y a toujours des débordements, et les gens qui ne visent pas à manifester, qui visent plutôt à détruire ou à créer des créances à l'occasion de ce type de manifestation. Donc, ce qui fait que, globalement, les gens n'étaient pas autorisés à manifester. Et par conséquent, ces droits-là, qui c'est un droit fondamental, mais qui est limité selon la situation du pays à un moment donné, selon les réalités du pays, selon que nous sommes dans une situation particulière. Ça, il faut quand même l'observer.
Alors, vous dites que c'est un droit fondamental reconnu par la Constitution. Pourquoi ne pas encadrer ces manifestations?
Oui, mais le souci, madame, c'est qu'encadrer les manifestations dans une période où on dit c'est une période critique, on estime qu'on ne peut pas prendre des risques. Savez-vous qu'on avait déploré des morts au mois de septembre? On n'en a pas déploré au mois de novembre. Parce qu'il n'y a pas eu cette manifestation. On a évité qu'il y ait la manifestation pour éviter qu'il y ait à déplorer des morts. Là, par rapport à la date du 19, on avait dit à tout le monde qu'il n'y aurait pas. C'est pas autorisé de toute façon. Comment voulez-vous quand on impose une règle par ceux qui ont le pouvoir public en main, vous ne voulez pas respecter?
Et donc il faut tuer quand on ne respecte pas?
Non, je ne dis pas qu'il faut tuer. Les ministres même viennent de présenter la situation de manière tout à fait claire. Est-ce que il était. Les forces de l'ordre sont adressées à qui? Ils étaient confrontés à qui? Aux gens qui étaient en train de piller. Est-ce que tout Kinshasa a pillé? Non. Est-ce qu'on déplore de mort partout?
Ces gens étaient armés, ces gens qui pillaient?
Mais est-ce que vous étiez présente pour savoir ce qui s'est passé exactement? Vous n'étiez pas là. Donc, ce qu'il faut faire dans ces quatre choses, madame, c'est de se référer à une enquête judiciaire qui peut déterminer ce qui s'est passé exactement. Je ne dis pas que les forces de l'ordre, la sécurité, ont toute autorité. Je dis simplement, dans la limite de leurs compétences, ils doivent faire le travail, ce qui fixe la loi. Si la loi fixe le fait que quelqu'un qui est en train de voler, il faut l'appréhender simplement, il faut l'appréhender. Mais quelqu'un qui est en train de voler, qui est armé et qui doit se tenir contre les forces de police, il peut, en cas de défense en ce qui concerne la police, subir ce type de conséquences. Il s'agit simplement de ça. Mais il n'y a qu'une enquête de notre justice qui peut déterminer si un policier est coupable ou pas coupable. Ce n'est ni vous, ni moi, ni ce que je viens d'entendre par rapport à la MONUSCO qui ne dit pas, au fait, les responsables de la MONUSCO qui ne dit pas que la manifestation avait été interdite d'abord. Parce que quand on commence à dire, oui, mais on a fait ceci, d'accord, mais il aurait fallu dire d'abord, dans un premier temps, qu'on avait interdit qu'il n'y ait pas de manifestation. Et par conséquent, les gens qui ont manifesté, c'est même pas une manifestation, les gens qui ont tenté des pillages dans des endroits qui ne sont pas les leurs, étaient déjà en infraction en terre, sur le plan légal, étaient en infraction. Double infraction s'ils pouvaient en même temps dire que c'était dans le cadre de la manifestation.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de pouvoir neutraliser ces pilleurs, entre guillemets?
Madame, vous et moi n'étions pas là. La seule entité ou la seule institution qui a l'autorité pour établir qui est coupable, qui n'est pas coupable, qu'est-ce qui s'est passé exactement, c'est la justice. Je ne veux pas me substituer à la justice, vous non plus. Mais le problème, les grands malheurs, c'est quoi? Est-ce que j'entends ici les gens, sur base d'une information quelconque, se substituent à la justice? On a fait ceci. Mais oui, mais sur quelle base? Avez-vous une base légale sur laquelle vous... Il n'y a que la justice d'un pays qui détermine. Hier encore, madame, pour rappeler avant-hier l'histoire qui s'est passée à Berlin, souvenez-vous. On a appréhendé quelqu'un, tout le monde voulait lyncher, on a dit non, il n'était même pas coupable. Voyez-vous, sur l'histoire qui s'est passée au marché de Noël à Berlin. Il faut laisser la justice faire son travail. Et quand elle aura déterminé
qu'il y a culpabilité... Mais justement, même pour ces pillards, il fallait peut-être les arrêter et laisser la justice de faire son travail.
Mais la question, dans quelles conditions se trouvaient les policiers pour pouvoir tirer les cas échéants? C'est ça la question qu'il faut se poser. Dans quelles conditions se sont-ils trouvés pour pouvoir tirer? Est-ce qu'ils ont tiré en cas de légitime défense, oui ou non? Personne, aujourd'hui, ne peut déterminer ce qui s'est passé exactement. Seule la justice peut déterminer. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas coupables, je ne dis pas non plus qu'ils sont coupables. Je dis simplement que, en tant que juriste, en tant qu'avocat, lorsque je suis en face de cette situation, je me pose la question. Est-ce que la justice a été saisie? Elle a enquêté? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ça. C'est au terme de l'évaluation de la justice que je pourrais éventuellement donner un avis. Mais avant ça, je n'ai pas autorité. Vous non plus.
Alors, en parlant du bilan, le porte-parole, le ministre de la Communication parle de 9 morts à Kinshasa. Il dit que, il précise qu'il n'y a pas eu des morts dans d'autres provinces du pays. La MONUSCO parle de notre bilan, 19 morts, plusieurs 45 blessés et 113 arrestations.
Madame, je suis un peu mal à l'aise de voir qu'on met sur le même pied d'égalité la MONUSCO et l'État. Ça me pose un problème, parce qu'il n'y a qu'un RDC, on peut dire ce genre de choses. Si vous allez en France, on ne dira pas que la société civile, telle institution a dit ceci, et l'État a dit ça. Non, c'est le ministère de l'Intérieur qui détermine, et les porte-parole du gouvernement qui dit de quoi il s'agit. Et tout le monde s'est pris à cette type de notion. S'il y a un problème, on va en justice pouvoir dire non, c'est le contraire.
Ensuite, quand même, ce qui se passe à l'étranger aussi, Maître Manjolo.
Oui, non, mais tout simplement.
Il y a aussi des organisations qui donnent leur bilan.
Il me semble que lorsque les ministres français... Le porte-parole français donne les bilans du pays, c'est celui-là auquel tout le monde sait faire. On ne dit pas que, entre parenthèses, il y a une ONG qui a dit que c'est ça. Personne n'a dit ça. Il n'y a qu'un RDC dans nos pays où nous sommes soumis absolument au diktat de ce que peuvent dire les autres. Simplement, lorsque nous déclarons, par exemple, la situation du comportement des obligeants des éléments de la MONUSCO dans la partie Est, on nous a dit que non, c'était pas ça, il fallait c'était autre chose. Voyez-vous ? Donc, on ne va pas se lancer ça à la tête, mais simplement un État constitué en tant que tel, avec des autorités constituées. Qui déclare quelque chose, je pense qu'il y a un minimum de respect par rapport à leur déclaration. Maintenant, la seule contradiction qui peut venir, c'est d'une autre institution qui est légitime à pouvoir le faire, c'est-à-dire la justice. Le gouvernement a dit ça, la justice dit ça. Si vous comparez la justice et les gouvernements, je ne vais pas encore comprendre. Mais vous comparez les gouvernements et la MONUSCO, ça me pose un problème.
Merci. Maître Manjolo, Albert Fabustola, député national, leader du Parti Renaissance du Congo, Réconcile, et membre de la plateforme dynamique de l'opposition, politique et du rassemblement. Quelle est votre analyse par rapport à la situation du 19 et 20 décembre 2016?
Merci beaucoup, madame. C'est avec une grande amertume que je me suis permis d'intervenir dans le cadre de votre émission. C'est très grave ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les mots m'échappent, les mots me manquent pour décrire et même faire une analyse sereine de ce qui se passe. D'abord, je dénonce et je condamne ces morts de trop en République démocratique du Congo et je présente mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées, à moi-même particulièrement parce que j'ai perdu les miens dans la ville de Matadi. Parce que lorsque les porte-parole du gouvernement dit qu'il n'y a eu que 9 morts, c'est grave, c'est un mensonge grossier, c'est vraiment une contre-vérité parce que, souvenez-vous, entre le 19 et 25 janvier de l'année passée, tout comme le 19 septembre, j'étais parmi les victimes. On a parlé d'un chiffre et finalement ça a évolué 3-4 fois. Nous connaissons les hommes. Lorsque mon co-débatteur, que je salue d'ailleurs un confrère, comme notre analyste politique, que je salue également, dit qu'il faut seulement se fier à ce que dit le porte-parole. Mais quel porte-parole du gouvernement lorsqu'on est habitué à donner des contre-vérités? Madame, je pense que ce qui est plus important ici, ce n'est pas cette arithmétique macabre auquel on a habitué le peuple congolais, il y a eu autant de morts, il y a eu autant de morts. Mais le problème fondamental qu'il faut soulever ici, moi je le vois en trois dimensions. Premièrement, lorsqu'on dit que nous on avait interdit les manifestations, Est-ce que je suis très content d'avoir affaire à un confrère avocat parce qu'on dit qu'on a interdit les manifestations, ce sont les manifestations publiques. Ce qui s'est passé les 19 et 20, les gens étaient dans leur maison avec des sifflets et des casseroles. Des militaires qui entrent jusque dans les retranchements, dans des maisons, jusque dans des chambres, sous les lits, pour tuer des gens qui ne faisaient que s'exprimer.
On Est-ce a vu aussi la... des gens dans la rue, Monsieur Pouella. Il y a eu aussi des gens dans la rue qui sont sortis.
Oui, même si des gens sont sortis aussi dans la rue. C'est, dites-moi d'abord, quelle est l'infraction qu'ils ont eu à commettre? Et quand bien même ils ont eu à commettre une quelconque infraction, est-ce que la peine attachée à cette infraction, c'est la peine de mort? Si maintenant c'est lui qui siffle ou qui tape sur des casseroles, on réserve la peine de mort. Quelle est la peine qui est réservée à celui qui intentionnellement viole la Constitution, refuse d'organiser des élections pour se pérenniser au pouvoir? Je parle à mon confrère qui est avocat comme moi, qui est juriste. Quelle est la peine qui lui est réservée? Madame, ce n'est pas normal. Et surtout lorsqu'on sait qu'il y a eu justement cette disproportionnée de la violence et qu'il y a eu préméditation même. Vous avez dit comment, depuis vendredi, samedi, dimanche, on était en train de faire les pleins de véhicules, comment on a assiégé. Nous, je ne savais pas qu'on avait proclamé l'état de siège dans la ville de Kinshasa. Lorsque nous avons des sérieux problèmes à l'Est, on n'a jamais vu un tel déploiement des militaires, mais Kinshasa, une capitale paisible. On déploie déjà, on ignore que la Constitution consacre les droits à la population de s'exprimer, les droits de la presse, mais tout simplement... Il fallait brimer parce qu'on ne veut pas que les Congolais puissent
Il faut se poser aussi la question de savoir pourquoi les policiers ou les militaires sont arrivés à tirer Monsieur Pouella.
Mais justement, ce n'est pas normal parce que les gens n'étaient pas armés. Ils n'avaient que des sifflets et des casseroles. Plusieurs étaient dans leur maison, c'est dans les maisons qu'ils ont été tués. Et lorsqu'on tue, on prend le corps pour ne pas laisser de traces. Avoir une sépulture, avoir une tombe, c'est parmi les droits garantis aux particuliers. Pourquoi devait-on prendre ce corps à l'université de Kinshasa, au quartier Lifulu plus particulièrement, lorsque des gens sont tués, ceux qui étaient blessés qu'on a amenés aux cliniques d'université, des policiers sont partis prendre les blessés pour les amener où? Et des familles sont en train de se mettre. Si M. Mende parle de 9 morts, savez-vous qu'à Boma, il y a eu, d'après la société civile, il y a eu 11 morts, même si de manière officielle, on parle, je parle de la mairie, je parle de 5 morts, mais il y a eu plus de 11 morts à Boma. Et qu'à ma tête, il y a eu 4 morts, des personnes que même moi je connais personnellement, qui ne priaient pas, qui étaient dans leur maison, devant leur maison, en train de siffler, de taper des casseroles. Mais comment peut-on imaginer, je vis à l'exemple qu'a donné mon co-débatteur, il y a, au niveau du marché de Berlin, il n'y a eu que 9 morts. Encore qu'un seul mort, c'est un mort de trop. Mais chez nous, même si on a banalisé. A-t-on suivi un message de condoléances, une mobilisation de toutes les autorités de la République? Non. Comme si chez nous, un Congolais, c'est comme un cafard qui meurt et cela ne met personne. A-t-on entendu le chef de l'État? Alors qu'à Berlin, on a vu le président prendre des paroles, on a vu la chancelière, il y a eu toute une mobilisation. Mais ce n'est pas normal que chez nous, cela puisse passer sous silence. Même ce qui est grave.
Merci, monsieur.
Je condamne même ma chambre. Excusez-moi, madame. Je condamne même ma chambre. Donc, des Congolais sont morts.
Je vous redonne la parole tout à l'heure, monsieur Pouella. Étienne Vivien Kalonji, politologue, chercheur en résolution pacifique des conflits et analyste indépendant. Quelle est votre lecture à vous par rapport à ce qui s'est passé le 19 et le 20 décembre dernier?
Oui, madame Hélène Coutet, avant que je puisse faire ma lecture, je rejoins à tous mes compatriotes qui ont perdu le leur parce qu'ils ont voulu tout simplement réagir, ce qui est noble dans une démocratie, et que ces genres de situations
On a un problème avec votre ligne, Étienne Vivien, on a un problème avec votre ligne. Est-ce que vous pouvez bouger un peu pour améliorer la qualité de la communication?
Oui, je peux bouger un peu. Ça veut dire que lorsque nous avons fait le choix dans notre pays pour l'acceptation du système démocratique comme étant le meilleur des systèmes qui permet l'existence de personnes dans une société, certainement nous devons comprendre qu'au départ, cette définition primaire de la démocratie, qui est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple, les politiques qui constituent le système politique doivent comprendre à composer avec les aspirations profondes de la population. Donc, on ne peut pas gouverner un pays contre son peuple, tout comme on ne peut pas gouverner en restant sourd aux revendications ou soutien du peuple. Voilà pourquoi nous disons que c'est vraiment grave lorsque nous disons que nous sommes démocrates ou nous souhaitons la démocratie, mais nous acceptons de sacrifier les vies de ceux-là qui sont les détenteurs du réel pouvoir. La vie est sacrée, madame. Même la vie d'un criminel, elle est sacrée. C'est pourquoi dans la charte de la Déclaration des droits de l'homme, soutient à fait que nul ne peut se prévaloir le droit de mettre fin à la vie d'un homme qui est créé à l'image du bon Dieu. Voilà pourquoi nous disons que c'est vraiment un drame très macabre que nous devons nous arrêter pour s'imaginer quel système politique voulons-nous assurer à notre pays, ces pays de Lumumba, ces pays de Kasavubu, qui ont tant milité pour qu'ensemble nous puissions réfléchir de quelle manière nous devons nous comporter dans une société. Et c'est vraiment grave que les policiers et militaires utilisent les moyens non disproportionnés pour réprimer ou contenir un mouvement de masse. Alors faut-il s'imaginer que toute l'assistance de la communauté internationale sur la réforme de la police, sur le comportement des policiers pendant les périodes de troubles, ils doivent utiliser les moyens non détournés, mais nous voyons qu'ici, cela ne se fait pas. C'est déplorable. Et c'est ce qui nous pousse à s'imaginer que les politiques doivent encore une fois de plus comprendre que dans une démocratie, on tient compte des aspirations profondes de la population. Raison pour laquelle, sous d'autres choses, nous voyons les institutions de sondage, quand on est aux affaires, quand bien même qu'on a gagné les élections, on a l'oreille tendue sur les sondages, sur l'opinion populaire. Est-ce que dès que je me suis réveillé ce matin, mon action politique, comment a-t-elle été appréciée par la population? Du jour le jour, les responsables doivent avoir l'oreille tendue vers la population. Parce que c'est auprès de la population qu'on recourt pour obtenir le pouvoir. Mais si on doit diriger une population contre ses attentes, contre ses aspirations, alors on s'est dit, nous ne sommes plus dans ce système-là que nous appelons démocratie. Il faut alors donner une autre appellation à ce genre de système.
Alors, Monsieur Vivien Kalongi, ces manifestations, comme l'a dit tout à l'heure Maître Guillaume Mandolo, les manifestations sont interdites en RDC jusqu'à nouvel ordre. Les gens n'étaient pas autorisés à sortir, à manifester ce jour-là, ces deux jours, donc le 19 et le 20.
Je pense que mon frère, lorsqu'il vient d'intervenir, encore faut-il savoir, comme il est maître avocat, il sait très bien qu'on ne peut jamais, assujettir le droit de manifestation d'une population par une quelconque autorisation. Allez-y comprendre, sinon ma famille, vous allez lui demander de ne pas réclamer à manger. Je vais vous relater une anecdote que j'ai pu constater dans un poulailler d'un père avant qui élève les poules. À chaque moment qu'il leur amène la nourriture, ils savent qu'à tel moment on nous donne à manger. Et dès lors que vous entrez dans le poulailler et que vous n'avez pas apporté la nourriture, vous verrez le comportement des poules et des coqs. Ils vont se jeter vers vous. Si les animaux qui raisonnent par instinct réclament à manger, encore faut-il savoir pourquoi l'homme ne peut pas réclamer.
Merci.
Donc le comportement
Monsieur
des individus dans une société ne doit pas être limité. On ne peut jamais assujettir le droit de manifestation qui est reconnu dans notre constitution et qui est reconnu dans toutes les institutions internationales par une quelconque autorisation.
Merci Étienne Vivien Kalongi. Merci Étienne Vivien Kalongi. Maître Guillaume Mandolo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Patient Paul Longoï, depuis Kinshasa Mongafula. Même s'il pouvait y avoir un mort à la place des zéros, c'est une perte grave et honteuse pour le pays. C'est au nom de qui et de quoi ces gens-là ont trouvé la mort? Alors, le problème était simple si on prétendait éviter ceci. Le ministre devrait se tranquilliser et diligenter des enquêtes et venir conclure qu'il y a eu seulement ces 9 morts. Maintenant, si d'autres sources apportaient le preuve de la réalité de l'ensemble du pays, qu'en dira-t-il alors que différents reporters des chaînes et stations de télévision ne cessent de nous surprendre?
Alors, Maître Guillaume Mandjolo.
Oui, merci. Au fait, j'aurais souhaité, je commencerai par le...
L'auditeur?
Non, non, l'auditeur, j'ai compris sa position, donc il a raison quelque part de dire que même si c'est un seul mort, c'est déjà un mort de trop. Et c'est qu'on, la démarche qui a été faite, c'est d'éviter qu'il y ait un mort, même un seul mort. C'était la démarche. Et les frères, là, Kalonji, Étienne Kalonji, au fait, je pense quand même qu'il doit prendre une position tout à fait cohérente avec ses propres aspirations, dans la mesure où sa démarche est plutôt une démarche d'opposition. Ce n'est pas une démarche d'analyse simple. C'est une démarche d'opposition, il faut s'assumer, et ce sont droits les plus absolus.
Pourquoi alors, vous pensez que c'est une démarche d'opposition?
Non, lorsqu'on doit, analyser, au fait, on établit tout simplement des choses sans réprocher. On établit les situations telles qu'elles se présentent, avec les éléments, par rapport à l'analyse simple, on ne prend pas parti. Or, il s'avère qu'il prend parti, il estime que le gouvernement devait faire ceci, il n'a pas fait ceci, ainsi de suite et tout ça. Donc, il y a déjà une prise de position qui est tout à fait louable, mais on la prend lorsqu'on est habillé dans une formation politique en disant, voilà, moi je suis de l'opposition, voilà ce que je pense. C'est respectable, il n'y a pas de problème. Donc, c'est plus facile pour l'interlocuteur de savoir à qui il s'adresse. Or, l'analyse telle que j'entends ici et là, les analystes politiques et tout ça, c'est très bien, mais il faut prendre la hauteur, être un peu quelqu'un qui regarde les éléments et qui les approche et les présente. Lorsqu'il
vous auriez préféré qu'il dise quoi d'être
non, lorsqu'il prélève, je prends un élément qui est intéressant, lorsqu'il prélève le sondage, je suis d'accord avec lui. Donc là, c'est vraiment dans une analyse simple, en disant, chaque fois qu'on est en face de la population, même si on a été élu, on doit évaluer si effectivement on est en harmonie, en osmose avec cette population-là. C'est à travers le sondage notamment qu'on peut les vérifier. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais lorsqu'il commence à dire la limitation des droits, par exemple, bon... Et les confrères pour qui j'ai énormément de respect aussi, et nous avons le devoir de nous respecter de toute façon par rapport à notre métier, peut dire des choses, peut attaquer ce qui fait le gouvernement. Il est dans l'opposition, c'est son droit le plus naturel, il l'est fait avec un certain talent, d'accord. Maintenant, dire que la manifestation ne peut pas être limitée, non, c'est pas vrai du tout. Toutes les libertés coulées dans les cadres de la loi fondamentale ont des limites. Ont des limites. Les droits civils et politiques peuvent être limités. Lorsqu'il y a toujours des règles d'exception pour pouvoir dire que cette liberté, en ce moment ici, ne peut pas produire ses effets parce qu'il y a ça comme raison majeure. Lorsque vous avez l'état d'urgence dans les pays comme la France aujourd'hui, qui a été reconduite plusieurs fois pour des raisons majeures, on doit observer ça. On ne peut pas s'en passer au motif que, bon, on n'est pas d'accord avec la situation. On peut attendre un autre moment. Il y a d'autres expressions. Mais, madame, il y a un élément simple. Au jour d'aujourd'hui, ce qui est réclamé par les uns et par les autres a déjà été réglé par la loi. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle a réglé cette affaire-là à travers son interprétation de l'article 70, alinéa 2. C'est fait déjà. Donc, manifester...
Il n'y avait pas de raison de manifester, mais puisque la Cour a déjà interprété...
La Cour a déjà fixé la situation. Manifester, c'est pour quelle fin? Si vous entendez maintenant les discours étrangers qui disent, votre Cour a parlé, mais simplement nous sollicitons que les droits humains soient respectés. On ne vous dit pas que la RDC n'est pas en règle avec la loi, par rapport à cet aspect-là précis. La RDC est en règle avec la loi, l'article 70 fixe, ça a été interprété. Ce sont nos règles, ce sont nos institutions. C'est déjà fait à ce niveau-là. Mais manifester pour réclamer quoi en ce moment-là, puisque la Cour a déjà décidé? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est vrai de pouvoir reprocher à la justice, plutôt à la sécurité de faire ces gens, d'avoir ce type de comportement des cas échéants, si c'est avéré que c'est comme ça. C'est tout à fait... Mais en même temps, quelle est la raison qui pousse les gens à les manifester dans l'hypothèse où... C'est même pas une hypothèse. La réalité, c'est celle-là. La Cour a déjà décidé et qu'on doit passer à autre chose.
À quoi servent tous ces dialogues auxquels on assiste?
Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la Cinco qui conduit l'arbitrage entre la majorité présidentielle et les autres forces politiques qui ont participé, de l'opposition qui ont participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine, plus face au rassemblement, a-t-elle déjà sorti ses conclusions pour dire non? Ce qui est recherché aujourd'hui, madame, des parts et d'autres, plus personne ne discute sur la gestion de la transition par Joseph Kabila. Plus personne ne discute ça. On parle, quelles sont les... Maintenant, on discute sur les modalités. D'un côté, on vous dit, voilà, pour décrisper, il va falloir libérer les gens. Alors, quelle serait la solution? C'est de trouver des hauts magistrats qui seraient à mesure de pouvoir évaluer qui est, qui n'est pas prisonnier d'opinion. Et puis, on ajoute encore un élément majeur qui est de pouvoir dire, est-ce que... Le président Kabila peut nous rassurer, nous donner des garanties supplémentaires, disant que au terme de son mandat ou pendant la gestion de la transition, il ne va pas rester, il ne va pas modifier la constitution. On en est là pour l'instant. On n'est plus au stade de pouvoir dire c'est fini les 19 et 20. Alors, on n'est plus là.
Au jour d'aujourd'hui, il est toujours légitime.
Mais il est légitime, madame, au terme de nos textes, il est légitime. Merci. On peut contester ce qu'on veut, madame, mais il est légitime. La discussion aujourd'hui entre toutes les parties, c'est par rapport à la période transitoire, comment on devoir la gérer. Faut-il que Joseph Kabila puisse encore signer un document, il me semble que c'est une humiliation à un chef de l'État. On en est là.
Merci, maître Mandjolo, Albert Abouskoul. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Serge Ndoukouma Egebe, depuis Kisangani. La RDC est un pays démocratique et selon notre constitution. La réalité montre qu'il n'y a pas de démocratie. Les dirigeants sont les acteurs principaux du blocage et des avancées démocratiques de notre pays. Il n'y a pas de mort sans mot d'ordre des leaders du rassemblement. Nous craignons qu'au cas où il y aura des mots d'ordre de ces derniers, le pays va se plonger dans le chaos. Nous demandons aux leaders de sauver le pays et protéger la jeunesse, car il n'y a pas encore tard. Est-ce que la démocratie, c'est le nombre de morts ou vivre dans la liberté?
Alors, je vais ajouter cette réaction de Gombo Augustin, qui nous écrit depuis Kinshasa. Le vrai problème, c'est la solution durable à la crise que connaît actuellement le pays. Si nos politiciens ont vraiment le souci du peuple, ils doivent saisir l'occasion de la médiation de la CENCO pour se mettre d'accord sur les points de divergence qui les divisent. Savons-nous que cette crise est le résultat de la non-organisation des élections dans le délai? Savons-nous aussi que la CENI de feu Malou avait proposé un calendrier que l'opposition avait rejeté? Donc, les deux camps majorité-opposition sont interpellés. Le peuple attend une résolution dans les négociations actuelles avec la CENCO. Fabrice Pouella.
Merci beaucoup. Je salue ces compatriotes pour leurs interventions. Madame, je pense que le pays a très bien dit. Il ne suffit pas, et c'est même dans... les auteurs le disent. La démocratie ne se décrète pas. La démocratie se constate par... l'exercice libre de toutes les libertés, par l'existence d'une opposition, par une presse libre. Lorsque on misèle la presse, on interdit RFI par exemple, on interdit les manifestations publiques, alors que c'est interdit par la Constitution. Les cas de restriction des libertés sont clairement prévus en cas d'état d'urgence ou d'état de siège. Et ça dira un moment très précis. Mais chez nous, on se comporte comme vraiment on est pire qu'en Corée du Nord. C'est tout simplement inadmissible. Je suis vraiment estomaqué de constater que mon co-débatteur s'en prend à l'analyste. Parce que lorsqu'on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est une évidence. Vous n'avez pas besoin de classer quelqu'un comme soutenant l'opposition parce qu'il dit ce qui est vrai. C'est tout simplement inadmissible. Alors, pour ce qui concerne l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais c'est aussi encore une autre aberration. La Constitution a été écrite par les constituants, comme nous le savons. La Cour constitutionnelle, encore qu'on ne nous a jamais montré cet arrêt, la Cour constitutionnelle n'a jamais donné un autre mandat, n'a jamais prolongé, parce que la Constitution est tellement claire qu'on ne fait qu'un seul mandat au terme du deuxième et dernier, on abandonne le pouvoir, qu'on ait organisé des élections ou pas. Lorsque mon compatriote de Kinshasa dit que l'opposition a rejeté les calendriers de Malou, qui oublie aujourd'hui que tous les différents partis d'opposition, à part les membres des FAC, ont eu à déposer des candidatures au mois de juillet 2015 pour l'organisation des provinciales. On peut oublier cela. Encore que le pouvoir a escroqué la population, on ne nous a jamais fait la restitution de l'argent payé ou même présenté des excuses. Madame, pour revenir à ce qui nous concerne, je pense que le pouvoir a failli. On ne peut pas interdire des manifestations. Vous vous souvenez que le jour de la nomination de l'actuel Premier ministre, il y a eu M. Ngoï Kassandji qui a organisé une marche motorisée dans toute la ville. Auprès de qui a-t-il obtenu l'autorisation? Pourquoi on doit faire des poids, des mesures? On tue. Dans d'autres cieux, quand on voit en France par exemple, en France on tue plutôt les terroristes. Les manifestants,
S'ils débordent, on les arrête. C'est ça un état de droit. Pour ceux qui le savent, parce que M. Mende ne le sait pas, il doit l'apprendre. C'est maintenant que j'apprends qu'à Makala, maintenant, il y a aussi des industries. Parce que ce sont des gens qui voulaient voler, piller des installations industrielles. Est-ce qu'il y en a à Makala? Est-ce qu'il y en a à Kingasani? Quel est le nom de l'industrie qu'il y a dans la commune de Makala? C'est tout simplement inadmissible de banaliser la vie humaine. Vous avez constaté que même mon co-débatteur n'a même pas osé présenter des condoléances ou même condamner les cas de tuerie qu'il y a. On a alors, banalisé. Et c'est pourquoi nous estimons,
Gombo,
puisque le mandat de M. Kabila est fini. Oui.
Gombo Augustin interpelle la majorité et l'opposition et il dit que le peuple attend une résolution dans les négociations actuelles.
Nous attendons, mais madame, souvenez-vous que ce n'est pas l'opposition qui a un mandat. C'est un certain monsieur Kabila qui a eu un premier mandat, un deuxième mandat, et il doit partir. N'ayant pas organisé des élections, on doit tirer les conséquences. Si pour celui qui sort dans la rue, il faut lui opposer, il faut lui réserver la peine de mort. Et celui qui viole intentionnellement la Constitution,
merci,
c'est celui-là qui ne mérite même plus d'être au pouvoir.
Merci, M. Pouella, Vivien Kalouji. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Guémena.
C'est Joël Bossio, j'appelle de Guémena dans la province du Sud-Ubangi. Je pense que la première des choses, c'est de bien vouloir finaliser les dialogues de la CENCO en cours. Et quant à ça, il va falloir que les leaders de l'opposition soient capables de maîtriser la population à ce stade. Mais aussi la majorité présidentielle en soi doit cesser de poser des actes si choquants et de prononcer des paroles d'attaque à l'endroit du peuple qui n'est peut-être pas d'accord avec l'évolution des enjeux politiques de l'heure.
Vivien Kalonji, ça pourrait être une solution.
Alors, salut le compatriote de Guémena, sa lecture est tout à fait aussi admissible. Mais seulement, ce que je voulais souligner, quand il parle de ces négociations, il s'avère aussi un cas très important à relever sur l'incapacité notoire des oppositions à pouvoir développer une alternative crédible qui consiste à organiser leur base politiquement pour que ces derniers, leurs adhérents, puissent savoir comment, quand il faut contester, ne pas se limiter à des contestations d'ordre illicite, mais plutôt s'exercer dans la philosophie du combat non-violent qui consiste à manifester dans la non-violence sans intention de piller ou de casser les biens de ses compatriotes. Et là, l'opposition politique au Congo n'arrive pas toujours à relever cette pente-là, d'organiser politiquement ses membres quand il s'agit de faire des manifestations non violentes. Comment les couvrir, comment les désenclaver pour que le monde qui est devenu un village planétaire puisse voir de lui-même de qui a eu l'initiative de mettre fin à la vie d'un citoyen ou d'une personne du monde. Et c'est là où l'opposition politique au Congo échoue, tout en espérant des négociations sans pourtant comprendre que le champ politique est réglé par le jeu de la force. Lorsque vous allez dans une négociation et que vous ne tenez pas compte des moyens sur lesquels vous vous appuyez pour faire prévaloir vos droits, à ce moment-là, vous serez phagocyté et vous ne serez qu'une opposition contestataire qui n'arrive pas du tout ici à démontrer effectivement que ce que nous espérons, nous sommes déterminés à arriver jusqu'au bout, parce qu'il faut qu'on se le dise, il a fallu que le sol s'enfonce pour sur d'autres cieux, la soit effective. Et ceci n'est pas propre au Congo. Là, je fixe évidemment le comportement de l'opposition par rapport à ce que mon co-débatteur de la majorité. Effectivement, je viens de lui montrer ici que mon analyse ne se limite que sur le plan purement de la sociologie politique approfondie. Moi, je questionne les faits, parce que les faits sociaux sont auto-globaux. Lorsqu'il arrive que sur les antennes de la radio, la RFI, pour nous qui captons la RFI sur les ondes courtes, une famille qui déplore la mort d'un certain Patrick qui a été victime d'une balle perdue, alors qu'il était que dans la maison. Vous allez nous dire que c'est Patrick-là, parmi les nombres de morts qu'a déclaré le ministre des Communications, a-t-il envisagé la mort d'un certain Patrick dans la ville de Kinshasa, mort d'une balle perdue? Donc c'est un patriote, c'est un compatriote congolais qui y a-t-il passé, et c'est cela un peu qui nous touche. Quand même que nous soyons analystes indépendants, et la vie de patriote est chère, comme aujourd'hui c'est la sienne, demain ça toute raison que nous disons ces choses sans parti pris. Nous fixons le comportement de l'opposition. Il doit faire beaucoup d'efforts de comprendre que l'alternative de la résistance active non violente est une réalité. Il a permis qu'aux citoyens afro-américains deviennent des citoyens américains, qui a permis à ce que la révolution des Philippines en 1986 soit une réalité avec le président Macron. Donc ce sont des réalités que nous devons ici nous imaginer, peut-être plus d'une fois, afin d'entrevoir comment nous pouvons imposer la démocratie au Congo.
Alors Étienne Vivien Kalonji, ça sera aussi votre mot de la fin. Le président actuel est-il toujours légitime?
Le président, il est légitime sur le plan de la légalité institutionnelle. Mais sur le plan de la légitimité sociale, le président ne peut que lui-même se fier au sondage d'opinion. Parce qu'il doit organiser des concerts de casseroles pour ici sonner à sonner d'alarme qu'il est déjà ce mandat. En toute responsabilité, on ne peut pas diriger contre les opinions d'une nation. On doit tendre effectivement son oreille parce que selon en sociologie, nous disons que la légitimité est une action dynamique. Aujourd'hui, vous pouvez être légitime, mais nous regardons demain, nous attendons, vous n'arrivez pas à les satisfaire. À nos yeux, vous ne devenez plus légitime. Voilà pourquoi tout notre siège, tout responsable politique a l'oreille tendue sur le sondage d'opinion auprès de sa population.
Monsieur François Hollande, merci Étienne, votre ligne se dégrade, on ne vous entend pas très bien, merci beaucoup Maître Guillaume Manjolo. La solution, vous pensez que la solution viendra des négociations actuelles avec la SANCO entre les parties signataires de l'accord de l'OUA et le rassemblement?
Une partie de la solution a déjà été trouvée au niveau de la cité de l'Union africaine, mais permettez-moi simplement de pouvoir saluer la démarche qui vient d'être opérée par le frère Kalonji. Il vient de faire une démonstration de l'analyse politique à travers...
Parce qu'il s'est attaqué à l'opposition?
Non, il ne s'est pas attaqué à l'opposition. Il a présenté la situation politique et les fonctionnements des institutions, comment ça doit fonctionner en fait. Tendance politique, comment on doit devoir œuvrer. Si une opposition ne parle pas de la même voie, si elle n'est pas, et ne se concerte pas avant, si elle ne donne pas de la bonne direction à la population, tout ça, c'est un peu compliqué. On est dans un cafouillage total. Et là, il a indiqué clairement ce qu'on peut espérer d'une opposition dans ces cadres-là. Donc là, il n'attaque personne. Il présente une analyse simple. Mais là où je peux être en contradiction avec lui, c'est par rapport à la légitimité et à la popularité. C'est deux choses différentes, en fait. C'est-à-dire que, bon, peut-être qu'en sociologie, ils emploient les termes légitimité pour pouvoir asseoir aussi ce qu'on appelle popularité, parce qu'on est légitime au regard de la loi, sur les pieds de la loi. La loi fixe que, bon, c'est lui qui gagne les élections et légitime. C'est par rapport à ça. La légitimité, on ne la perd pas au motif qu'on n'est plus populaire. C'est deux choses différentes. Alors, il est vrai qu'une autorité, quelconque qui a été bien élu, peut perdre la popularité qui lui a donné la légitimité au départ. Il s'agit de la popularité, pas de la légitimité. Aujourd'hui, François Hollande est toujours légitime, mais il n'est plus populaire. C'est deux choses différentes.
Bon, maintenant, en conclusion.
Oui, en conclusion, madame, nous savons tous, et je déplore que Maître Poula, confrère Poula dise, fasse le commerce des sentiments, de la passion et des émotions. Je ne suis pas là dans ces créneaux-là, malheureusement. La réalité est celle-ci. Nous sommes face à une situation dont tout le monde sait quelle est la clé. La clé, c'est comment tenir cette transition pour faire les bonnes élections. Comment éviter qu'on puisse avoir des souffrances dans le pays. Tout simplement, il s'agit de ça, pas d'autre chose. Et ça a été fixé à la cité de l'Union africaine. On est en train de finaliser ça aujourd'hui au niveau de la
Merci, Maître Manjolo. Albert Abouspoula, votre conclusion.
Notre conclusion, c'est que à l'issue de ce dialogue et autour de la SENCO, les rassemblements feront une grande communication pour donner notre position à l'opinion nationale et internationale. Mais ce qui est déjà clair, c'est que M. Kabila n'est ni légitime ni légal aujourd'hui et le peuple congolais doit se prendre en charge. Nous
Merci,
avons un pays que
monsieur,
nous aimons et il faut que continue.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue Homs Congolais, Berry Luchaka, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à Sylvain Matundu, qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokati.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Flash Info Bibi Mukonkole.
Okapi.